Je suis avec Sébastien Ferrand pour le salon de la bande dessinée BD Boom à Blois. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pourriez nous présenter votre ouvrage en introduction, puisque vous avez également fait trois tomes sur Ulysse?
Oui, tout à fait. Alors, pour l'anneau des Nibelungen, c'est adapté de la tétralogie de Wagner, donc qui sont quatre célèbres opéras qu'il a composés, que sont L'Or du Rhin, La Valkyrie, Siegfried et Le Crépuscule des Dieux. Donc, ça raconte l'histoire d'un anneau maudit forgé par le roi des nains Albéric, qui, n'arrivant pas à séduire les filles du Rhin, a volé l'or sacré qui leur appartenait et en a fait un anneau pour lequel les dieux, les hommes, les géants vont s'entretuer pour le posséder. Donc, on est vraiment dans un terrain qui est très connu, qui est celui du Seigneur des Anneaux. On voit tout de suite que Tolkien s'est inspiré principalement de cette légende pour écrire son œuvre.
Vous allez reprendre l'intégralité de l'opéra de Wagner ou est-ce que vous allez juste faire des coupes à l'intérieur?
Alors j'ai fait quelques coupes en fait, comme pour des raisons éditoriales, je vais faire trois tomes au lieu de quatre. Les deux premiers opéras sont dans le premier tome, qui s'appelle Wotan le Faible, et j'ai dû énormément couper dans le deuxième opéra, La Valkyrie, parce qu'il y a une histoire d'amour en fait entre deux jumeaux. Deux enfants de Wotan qui sont séparés dès la naissance. Là aussi, ça rappelle une autre histoire. Et qui se retrouvent à l'âge adulte. Mais ils ne savent pas qu'ils sont frères et sœurs. Et donc, ils tombent amoureux l'un de l'autre et vont avoir un enfant qui sera Siegfried, le héros du prochain opéra. Moi, j'ai remarqué que l'histoire des deux parents, des deux frères et sœurs, Sigmund et Sigmline, ressemblait beaucoup à l'histoire d'amour entre Siegfried et la Valkyrie, qui arrivera plus tard et qui se termine à peu près de la même manière. Donc, j'ai préféré sacrifier la romance entre les deux, entre le frère et la sœur, pour pouvoir développer l'histoire entre Siegfried et la Valkyrie.
Vous nous citiez Tolkien qui s'est largement inspiré de cette légende pour le Seigneur des Anneaux. Ça se voit d'ailleurs dans le dessin, puisqu'il y a un œil à un moment qui ressemble énormément à la représentation qu'on se fait de l'œil de Sauron. Est-ce que vous avez mis d'autres références que celles-ci dans votre dessin, notamment sur la représentation peut-être des forges, des nains ou sur les costumes même?
Pour la Forge des Nains, je me suis inspiré un peu de tout, enfin de choses qui n'avaient pas rapport avec l'heroic fantasy, de ça faire bizarre, de sculptures un peu bizarres que me rappelaient les sculptures des Mayas, qui parsèment un peu la caverne des Nibelungen. Il y a aussi des références un peu plus inconscientes ou qui viennent du manga Senseiya, parce que j'aime beaucoup dessiner les armures. Et puis il y a une référence à un jeu vidéo. Alors, pour ceux qui ont joué sur PlayStation première génération, qui s'appelait Valkyrie Profile justement, qui était peut-être l'une des rares adaptations de l'univers germanique. Et donc l'héroïne, enfin la Valkyrie, a une armure couleur or et bleu, donc j'ai repris ces couleurs pour l'héroïne de la BD.
Comment est-ce que vous avez travaillé sur cette bande dessinée? Parce que là, vous êtes en dédicace avec un pinceau stylo. Vous faites des choses magnifiques en noir et blanc. Mais on a l'impression que vous avez eu recours à l'infographie de temps en temps sur certains côtés de lumière ou enfin rien que l'anneau sur la couverture, c'est le cas ou...
Bah, tout ce qui est effet de lumière et couleur se travaille sur ordinateur. J'ai un peu tendance parfois à trop en faire, mais c'est le sujet qui est tellement ambitieux qu'on a envie d'être un peu enfin d'être un peu démesuré aussi parfois. Donc de temps en temps, quand je revois les planches, je me dis que j'aurais peut-être dû calmer certains effets. Bon, dans l'ensemble, moi ça me plaît justement de faire. Je me dis que je préfère faire justement une épopée comme ça épique avec plein de grands décors, des effets de lumière un peu trop over the top comme on dit maintenant plutôt que plus tard où j'imagine j'aurais peut-être plus la patience de travailler parce que c'est beaucoup de temps. Il faut faire des décors très très compliqués. Il y a une double page par exemple avec le Valhalla qui m'a pris 2 mois de réalisation. Donc je sais pas si plus tard j'aurai encore l'énergie et l'envie de passer autant de temps sur 2 pages en fait.
Les 2 pages avec toute la cité volante qui est vraiment, enfin quand on arrive dessus ça fait un choc même au niveau de la lumière par rapport aux planches d'avant, on en prend vraiment plein la figure. Vous vous êtes occupé de tout sur, enfin je veux dire, vous avez fait le scénario, le dessin, etc. Vous avez storyboardé ou...
J'ai fait oui absolument tout. En fait, je suis pas scénariste de formation, donc je travaille le scénario directement sous forme de storyboard, donc ce qui me permet de gagner un peu de temps parce que j'arrive pas à voir le texte sans l'image. Ensuite, en reparlant du Valhalla et aussi du coup de mes références, je n'ai pas fait justement une cité uniquement avec une architecture gothique ou germanique, mais j'ai un peu mélangé l'architecture romane, byzantine, pour donner à la cité des dieux une une identité un peu plus universelle. Ensuite, bon, le storyboard, ça me prend 2-3 mois de travail. Ensuite, une fois qu'il a été accepté par l'éditeur, ben j'attaque l'ancrage puis la couleur au fur et à mesure de chaque page. Donc ça me prend ouais, à peu près un an de travail.
Vous êtes déjà en train de travailler sur la suite, je suppose?
Oui, bien sûr, ce sera Siegfried l'Invincible et là actuellement j'approche de la moitié. Normalement, il sera prêt pour le deuxième semestre 2009 et ensuite j'enchaînerai donc sur le dernier tome qui reprendra le Crépuscule des Dieux. Et bon, pareil, comme pour mon travail sur Ulysse, je vais un peu rajouter 2-3 petites choses ou m'écarter de certains thèmes qui étaient abordés dans l'histoire, parce que la grammaire en fait de l'opéra, puisque j'ai lu les livrets des opéras, j'ai écouté la musique. Bon, c'est une grammaire qui est très en bande dessinée qui apparaîtrait comme très pompeuse, avec beaucoup de tirades à n'en plus finir, de plein de beaux sentiments. Donc je vais m'efforcer de mettre davantage en valeur ce qui, pour moi, dans une bande dessinée, serait beaucoup plus fort, comme notamment la fin du Valhalla, le Crépuscule des Dieux, qui dans l'opéra se déroule de manière très très symbolique, avec le bûcher de Siegfried qui enflamme du même coup la cité des dieux. Donc je me dis, en bande dessinée ça va être un peu léger, donc je vais je pense me lancer dans un dénouement un peu plus épique, on va dire, qui, je pense, répondra davantage aux attentes des lecteurs de bande dessinée.
Vous avez rajouté plein de petites notes, justement, comme ça, où vous détournez, enfin, pas vous détournez, mais où vous allez un peu plus loin que juste l'opéra. Il y a des petites notes d'humour ou des petites réflexions. Je pense à la tirade avec Ciel, mon mari, quand les deux jumeaux se sont découverts. C'est quelque chose qui vous tenait à cœur, justement, de mettre une petite touche personnelle en plus de la tradition de l'anneau des Nibelungen?
En fait, c'est quelque chose qu'en tant que, j'arrive pas à m'empêcher, en fait, quand je travaille sur une histoire qui est quand même très, très sombre et très premier degré. Il y a des moments où j'ai envie de rire de certains moments, parce que je me dis quand même c'est un peu gros. Et je me dis, en tant que scénariste, que l'humour est souvent le meilleur moyen pour le lecteur de se rapprocher du personnage. J'aime bien aussi le fait de rajouter, justement, dans une histoire qui se finit quand même de manière très tragique, justement des petites touches d'humour, de petites touches de légèreté où on respire un petit peu, tout comme j'aime mettre peut-être dans des moments un peu plus légers, tout d'un coup un moment plus dramatique. J'aime bien ce mélange un peu sucré, acide, on va dire. Alors ça déroute certaines personnes parfois qui ont tendance à ranger dans les catégories en disant mais c'est de la parodie, non c'est pas de la parodie. Il y a aussi le fait, en tant que scénariste, moi je me mets dans la peau des personnages que j'écris, même s'ils ne sont pas les miens, je me les réapproprie et je me mets à leur place et j'essaie en gros d'imaginer quelle réaction j'aurais dans telle ou telle situation. Par exemple, il y a un autre passage un peu humoristique, on va dire, en tout cas qui fait sourire certains lecteurs. C'est lorsque Wotan et Log, le dieu du feu, viennent dérober à Alberic l'anneau. Alberic, évidemment, bon, je me mets dans sa position, il se rend compte que les deux dieux essayent un peu de se moquer de lui, donc il arrive et sort un doigt d'honneur. C'est là effectivement on voit l'œil de Sauron. Donc tout ça, c'est des petites touches que j'essaie de faire discrètement pour pas non plus que ça ne vienne nuire au récit, mais qui permettent un peu, comme je disais, je pense, de rapprocher le lecteur des personnages et de la scène.
Se mettre dans la peau des personnages, on n'a pas envie de carrément partir dans autre chose que ce qui a été écrit par Wagner et laisser libre cours, on va dire, aux personnages.
Mais je suis à la fois dans cette démarche-là, aussi dans une démarche un peu pédagogique, parce que je sais très bien que les Nibelungen est une légende qui est très mal connue en France. Donc j'ai aussi envie que les lecteurs découvrent cette légende et envie aussi de s'intéresser à l'opéra, au texte germanique, même si c'est un peu plus compliqué, ou même voir au film de Fritz Lang qu'il a réalisé. Je mets un peu de moi, de mon vécu, de ce que comment je vois les personnages dans l'histoire, mais j'essaie quand même de garder le dénouement, les moments clés. Mon travail consiste juste à effleurer effectivement le moment où je peux m'écarter de l'histoire et en même temps où je sens que je dois le respecter. C'est un petit exercice d'équilibriste, mais qui me plaît énormément. Je trouve que c'est une bonne gymnastique.
Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots, si vous l'avez feuilleté ou lu, de la version de Siegfried par Alex Alice?
Et en fait, oui, c'était assez curieux. Ma bande dessinée était sortie en mars 2007. En avril, il y avait Soleil qui sortait Le Crépuscule des Dieux. Et donc après, en octobre, il y a eu Alex Alice. Oui, j'ai feuilleté la bande dessinée qui est somptueuse au niveau du dessin. C'est vrai, ouais, ça me fait un peu mal parce que c'est une concurrence déloyale, mais c'est vrai que Alex Alice est très très bon. J'ai vu aussi l'espèce de pilote de film d'animation qu'il prévoyait de faire, qui là aussi, je pense, pourra donner un film magnifique s'il arrivait à être produit. Non, c'est vraiment du bon boulot, mais de toute manière, c'est la règle du jeu quand on adapte un récit qui est libre de droit, donc forcément il y a des gens qui arrivent et qui vont avoir les mêmes envies, la même idée que vous. Après il y a des différences évidemment, le Siegfried qu'il voit n'est pas exactement le même que celui que je vais mettre en image dans le tome 2, donc mais oui, tant qu'on peut justement, tant que ça amène justement des gens à découvrir les Nibelungen, tant mieux, c'est parfait.
Quel est le personnage que vous préférez dessiner?
La Valkyrie, que j'aime beaucoup, parce que c'est un personnage qui m'a beaucoup touché. Il y a aussi le dragon, évidemment, Fafner. Je suis un grand fan de tout ce qui est gros monstre, gigantesque. Alors c'est pour ça que dans le tome 1, j'ai fait une petite entorse, parce que dans l'histoire, Fafner, qui est un géant normal, devient un dragon en prenant l'anneau. Donc moi, je l'ai fait apparaître directement en dragon, parce que j'avais pas envie d'attendre le tome 2 pour le faire. Voilà, donc il y a ces personnages-là, après, il y a des personnages, oui, comme Siegfried, qui sont intéressants, Alberic aussi, enfin... Non, principalement, je dirais, oui, la Valkyrie et Fafnir. D'ailleurs, ce sont les deux personnages que je fais le plus souvent en dédicace.
Mais justement, par rapport à la musique, est-ce qu'il y a une version qui est plus intéressante qu'une autre de Wagner, enfin, de l'interprétation de l'opéra par un orchestre ou quelque chose qui est mieux en adéquation avec votre création sur la BD?
C'est-à-dire au niveau de l'interprétation?
Au niveau des sorties CD, il y a eu quand même beaucoup de variations. Donc, à voir laquelle vous plaît le mieux et puis va le mieux sans doute avec ce que vous avez créé.
Alors, à ce niveau-là, j'ai pas l'oreille suffisamment développée pour... Enfin, déjà, je suis pas à ce point fan de musique classique pour acheter différentes versions d'un même opéra. Je sais qu'il y a l'œuvre de Bayreuth, je ne sais plus, enfin, d'un concert enregistré là-bas en live qui fait figure de référence. Je n'ai plus le nom du compositeur en tête. La version que j'ai, que j'écoute en boucle, en fait, que j'ai achetée, c'était celle dirigée par Karajan, qui elle aussi est très connue. De Wagner, j'écoute souvent différents thèmes qui, pas forcément issus de la tétralogie, qui s'accordent bien avec les séquences que je dessine, comme le prélude de Parsifal qu'on entend dans Excalibur notamment, qui est un thème magnifique, qui est très très mélancolique, mais en même temps très doux. Donc ce qui tranche un peu avec ce qu'a composé Wagner, où on suit toujours énormément de trompettes, c'est très on va dire très bourrin, très germanique. Alors que là, tout d'un coup, c'est comme si c'était en plus son dernier opéra. On sent vraiment que c'est le chant du cygne. Il y a une espèce de mélancolie qui, je trouve, coïncide très bien avec l'atmosphère qui se dégage des Nibelungen, où c'est un monde qui est en train de s'écrouler tout doucement. Il y a aussi des musiques de films que j'écoute énormément. En tout cas, j'écoute énormément de musique classique ou de films pour m'imprégner de l'ambiance quand je dessine. Ça me donne des idées de couleurs, de composition.
Quelque chose que vous voudriez rajouter sur peut-être votre actualité, savoir où on vous retrouvera en dédicace prochainement?
Alors prochainement, j'ai le salon du livre de livre jeunesse de Montreuil qui se tient la semaine prochaine, où j'y serai quasiment tous les jours, puisque j'habite pas très loin. Et puis après, je crois que j'ai une petite dédicace à Boulogne, mais alors... C'est juste pour une journée, j'ai complètement oublié d'ailleurs le nom. Sinon, genre, je ne bouge pas trop en ce moment, il faut que je boucle le deuxième album. Donc à mon avis, je vais pas trop bouger. Je pense que vers la rentrée, quand il sera sorti, là je retrouverai une actualité normale.
Pour en savoir plus sur vous, vous avez un blog ou un site internet ou...
Non, malheureusement, je suis vraiment à la traîne à ce niveau-là. Il faut que j'y remédie d'ailleurs. Donc, pour l'instant, vous pouvez me trouver de temps en temps. Je traîne sur le forum de BD Geste où j'ai d'ailleurs posté quelques pages. Où j'ai posté deux pages du tome 2 pour satisfaire les attentes de quelques lecteurs qui se demandaient quand est-ce que ça en était. Autrement, j'ai malheureusement pas de blog ou de site internet.
Sinon, ce sera marqué sur le site des éditions Emmanuel Proust.
Voilà, donc je vais y remédier, je vais travailler sur un blog très bientôt, c'est en projet, donc à ce moment-là, je vous communiquerai l'adresse.
Quelque chose que vous voulez nous dire particulièrement sur l'ouvrage ou...
Non, si ce n'est que j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire, ça a mis beaucoup de temps et j'en suis très content. Et que je pense que le second tome sera, j'espère, encore meilleur au niveau du dessin. Voilà, c'est une légende qui mérite amplement d'être redécouverte. Pas seulement sous la forme enfin, sous ma BD, mais il y a aussi, oui, la version d'Alex Alice, ou même au niveau de la musique, c'est vraiment. Enfin, pour moi, c'est vraiment un chef-d'œuvre, quoi. Je peux aussi recommander les Nibelungen de Fritz Lang si les films muets de 5 heures ne vous donnent pas des boutons. C'est vraiment le premier grand film d'heroic fantasy. Les décors superbes, les effets spéciaux pour l'époque sont prodigieux, donc c'est vraiment un film à voir, quoi.